Sa chère Mazoche, mon tailleur Abrahamek, souvenir du ghetto galicien. Quelle était sa vocation, en fin de compte, je ne peux pas le savoir. Aujourd'hui encore, je l'ignore. Tout ce que je puis vous affirmer, c'est qu'il se présenta chez moi comme tailleur, et ce que je ne puis nier, c'est qu'il me confectionna des habits, de vrais habits. Après quelques années passées en voyage, je venais de rentrer dans ma patrie et j'habitais en Galicie, la petite propriété de mon oncle, située près d'un chef-lieu de district non loin de la frontière russe. Quand le temps était beau, j'allais à la chasse. Lorsqu'il pleuvait, je lisais Walter Scott. Et comme il y avait des jours où, bien que sans pluie, le temps n'était pas beau du tout, on les employait généralement à faire des visites aux familles du voisinage qui avaient le bonheur de posséder chez elles quelque aimant tel qu'une jolie femme ou quelque gracieuse jeune fille. Et pour de telles visites, un costume neuf étant de rigueur, on manda à Abrahamek qui reçut l'ordre de me le confectionner. Quand il entra et me salua, il ne me fit pas du tout l'effet d'un homme qui vaut la peine d'être remarqué le moins du monde. Il était petit, maigriot, insignifiant. Il avait un visage étroit avec un nez crochu. Sous sa jabourka de velours, le long de ses tempes, frisotaient de minces boucles de cheveux noirs. Il portait un long talar noir, ainsi que tous les juifs, et nasillait en parlant comme ses coreligionnaires, aussi nombreux dans notre petite ville que les habitants d'une vaste fourmilière. Il tira de sa poche quelques bandes de papier sale, me prit mesure, écouta toutes mes instructions sans sourciller, puis s'assit, sans en demander la permission, vis-à-vis de moi à ma table. « Ainsi, jeune seigneur, vous arriviez de Vienne ? » commença-t-il. « Oui, de Vienne. Belle ville, hein ? » ?»« Oui, très belle ville. » « Vous allez rester ici maintenant, près de monsieur votre oncle ?»« Ah, vous ne vous plaisez pas ici ?»«
Non, ce n'est pas le motif. »«
Mais vous vous plaisez mieux à Vienne ?»«
Non, pas précisément. » »«
Le jeune seigneur fait ses études à Vienne, sans doute. »«
Oui, j'ai terminé mes études. »«
Terminé vos études, si jeune ? Quelle intelligence ! » Ainsi le jeune seigneur est probablement intéressé à quelque affaire à Vienne.
Non.
Ou bien même il est revêtu peut-être d'une charge.
Oui, à peu près.
Une charge. Oh, si jeune et une intelligence pareille. Le jeune seigneur viendra pour sûr gouverneur du district ou conseiller d'État, si Dieu lui accorde la santé. Et puis il se trouvera aussi une fiancée pour le jeune seigneur, une jeune fille belle et riche, ou peut-être le jeune seigneur a-t-il déjà trouvé ce que son cœur désire.
Et cela continuait, coulant comme une cascade, et tout en me questionnant, Abrahamek me fouillait de ses petits yeux gris qui pénétraient comme deux vrilles au plus profond de mon âme. Par Dieu, en voilà un qui a des aptitudes pour être juge d'instruction. Si on a autant pour la confection des habits, je n'ai qu'à me féliciter, me dis-je. Toutefois, le jour suivant, comme j'entrais dans un magasin de tabac pour acheter des cigares, un spectacle nouveau et étrange s'offrait à mes regards. Abrahamek, mon tailleur, sans tadar cette fois et en bras de chemise, était assis sur un tabouret bas près de la porte. Devant lui se dressait une planche rabotée lisse, appuyée à une chaise, et sur cette planche, à l'aide d'un gros pinceau, de quelques pots de couleur et d'une écuelle pleine d'eau, où il avait son pinceau, il peignait. Et que peignait-il ? Une femme turque, aux larges yeux noirs, ornée d'un turban vert pomme, vêtue d'un caftan rouge, bordée d'hermine, et assise, les jambes croisées sur un coussin bleu, en train de fumer une tchibouk gigantesque. « Abrahamek, que faites-vous là ? Vous le voyez, jeune seigneur, repartit Abraham avec visiblement froissé, je fais de la peinture.
Et à quoi cela est-il destiné?
À quoi cela est destiné? Mais c'est une enseigne neuve pour Madame Berneska.
C'était le nom de la veuve séduisante, propriétaire du bureau de tabac.
Est-ce là votre premier chef-d'œuvre? J'ai déjà peint l'enseigne accrochée à la douane, répondit Abrahamek, en se redressant avec la dignité offensée d'un Raphaël, et aussi l'enseigne à la belle polonaise de la rue de Limbourg, et le cadran solaire pour monsieur le curé. Dites, avez-vous jamais vu un soleil plus nature que mon soleil? Non, pour sûr, tout au plus à Vienne.
Et réellement, je dois avouer qu'Abrahamek avait du talent pour la peinture. La fumée que laissait échapper la femme turque de sa bouche, rose, ressemblait plus à une guirlande de copeaux noircis qu'à de la vapeur. Mais son visage était fort affriolant, et la belle polonaise aussi faisait honneur à son épithète pompeuse. Toutefois, l'art noble de la peinture n'était pas le plus beau des dons naturels dont était favorisé le bienheureux Abrahamek. Un mariage qui eut lieu dans une riche maison juive, j'eus l'occasion de connaître Abrahamek sous un jour tout différent. Il avait, non par intérêt mais par pure complaisance, disait-il, accepté l'emploi de loustique dans cette noce. Quel farceur il faisait! Toutes les plaisanteries des temps passés semblaient lui être venues à la tête. Il représentait le type vivant du joyeux Till Eulenspiegel sorti de son sarcophage. Il ne se contentait point des plaisanteries d'usage. Il respectait aussi peu la tradition que le rang ou la dignité des convives. Nul n'était à l'abri des flèches de sa raillerie, qui partait de toutes parts, accélérée et tranchante. Le moindre de ses couplets rimés était une fleur de son esprit drôlesque, et comme il les déclamait tous, avec quel verve, avec quelle modulation étonnante dans la voix, avec quels gestes incroyables et quelles contradictions de la face. Bref, c'était à se tenir les côtes. Le vaste appartement orné avec luxe semblait secoué de rire à chacun de ces bons mots, lancés comme des fusées étincelantes qui papillonnaient comme des diablotins et tourbillonnaient et frappaient juste, sans blesser personne. Enfin, il se tourna vers la jolie fiancée et toute la société prêta l'oreille, avide, retenant son souffle.
« La femme est acide, oui, c'est le dicton. » Des anciens temps qu'on répète de nos jours. Tout le mal vient de la femme. Elle est plus redoutable que l'incendie ou la mer. Quand le rabbin se rend à sa classe, il ne doit regarder aucun visage féminin. Oui, mesdames, quelques belles et désirées avec passion, pas une de vous ne vaut même un liard. Ah, que je plains ce jeune homme qui ne peut plus échapper aux tourments qui l'attendent. Plaindre, pourquoi? La question me semble importune. Est-ce que cette réputation faite aux femmes est vraie? Je dis non, et je puis vous le prouver sur l'heure. Pour sûr, les femmes en seront chaudement reconnaissantes. La femme fut créée d'une côte d'Adam, n'est-ce pas? Vous le savez tous, alors attention. Si une des côtes de l'homme, une seule, entendez-vous, est si mauvaise, oh, j'ai tout à fait raison de l'affirmer, que l'homme entier doit être plus mauvais qu'une de ses côtes.
Mais il a donc aussi du talent pour la poésie, ce petit Abrahamek, me disais-je, tandis qu'alentour de bruyants éclats de rire se faisaient entendre, et que les femmes, les jolies filles aux yeux de braise, applaudissaient l'aimable loustique en lui souriant avec grâce. Le jour suivant, je rencontrai mon tailleur sur la chaussée impériale. Il conduisait une troïka où étaient assises deux barines. L'équipage fendait l'air comme une flèche. C'était un spectacle bizarre que de voir ce petit homme chétif aux bras maigriots conduire ses chevaux impétueux et cette carriole fragile, tantôt évitant un trou énorme, tantôt rasant un précipice abrupt, ou bien passant droit entre deux énormes flaques de boue.
une véritable danse des œufs qu'exécutait ce treillage. « Abramaek !» lui criai-je. « N'aurais-tu d'autre talent que celui-là? Tu es en tout cas un cocher admirable. Ah, quel dommage que je ne possède ni chevaux ni voiture !» S'il entendit mon compliment, il n'en fut pas déconcerté le moins du monde, car il se contenta d'incliner sa tête frisottée en me saluant avec une dignité fière. Le dimanche suivant, je trouvai un tout autre Abramaek en dehors de la ville, dans un faubourg. C'était dans une taverne où les paysans dansaient. Cette fois, rien de la gravité calme du peintre, ni de la gaieté folle du loustique de la noce, ni de la grande allure du sportsman. Abramaek était en proie à une profonde mélancolie. Pas un muscle ne remuait dans son visage d'une rigidité de marbre. Ses paupières n'avaient pas un tressaillement, bien que des larmes coulassent incessamment, non toutefois le long de ses joues blêmes. Elles s'échappaient, amères, douloureuses et pleines d'harmonie, des cymbales devant lesquelles il était assis et sur lesquelles il frappait avec deux petites baguettes enveloppées de cuir graisseux, tantôt doucement, avec des inflexions caressantes comme s'il parlait à un enfant aimé, tantôt vigoureusement, avec furie, comme s'il eût corrigé une femme acariâtre par une grêle de coups bien appliqués. Autour de lui criaient, ronflaient, geignaient les autres instruments, comme une ménagerie avant le repas des animaux, et les paysans, en bottes sous lourdes, sautaient pesamment, et avec eux les paysannes, dont les jupes et les tresses tourbillonnaient. Tout cela dans un nuage de poussière qui sentait l'ail, l'eau de vie et les peaux d'agneau toutes neuves. Abramaek n'en était pas touché. Les lèvres closes, les yeux luisants, il épiait les sons mécaniques que les cymbales plaintives faisaient pénétrer jusque dans son âme. Il était artiste à cette heure, et Dieu sait quelle harmonie céleste il entendait dans son rêve. Une harmonie surhumaine, assurément, car sa face était illuminée d'un trait radieux. Que diable, Abramaek, musicien maintenant ? Et quelle âme de flamme dans ce petit corps si insignifiant d'apparence ! En attendant, mon Abramaek peignait, conduisait des attelages, composait des rimes drôlatiques, faisait de la musique, et mon costume n'arrivait pas. Il ne me resta d'autre alternative que d'aller moi-même chez Abramaek pour voir où il en était. La jolie petite maison qu'il habitait et où il avait ouvert boutique lui appartenait. Sa femme la lui avait apportée en dot. Lui-même était autrefois un pauvre élève talmudiste et aujourd'hui encore, il préfère les discussions d'école avec ses condisciples à la confection des fracs ou des uniformes. Quand j'entrai chez lui, je le trouvai accroupi sur une grosse table, cousant avec un zèle sauvage. « Je suis à l'œuvre, comme vous le voyez, » cria-t-il. « Demain, tout sera fini. »« Oh, il en est bien temps. »« Bien temps, mais le frac n'est-il pas terminé déjà ?»« Vergeille, où est le frac ? Je veux vous le montrer. Vergeille !» J'étais curieux de voir la femme de cet homme. Elle entra. Une brunette de taille moyenne, toute potelée. Les traits adorablement suaves de l'épouse d'Assuérus, dont la séduction fut assez puissante pour conduire à la potence le misérable Aman. Elle portait un diadème juif en or étincelant de pierreries, dont l'éclat rivalisait avec la lueur éblouissante de ses yeux et la fraîcheur satinée de ses joues, et une jaquette de velours rouge feu doublée et garnie de lapins noirs. Ses bras blancs et ronds se détachaient de la molle fourrure sombre, comme taillés dans un bloc de marbre grec. Elle me salua avec un sourire malicieux et se dirigea droit vers son mari. « Que veux-tu encore ? » commença-t-elle du ton bref et impatient et d'une petite souveraine qu'on eût dérangée au milieu d'importantes occupations. Le jeune seigneur veut voir son frac. »
Elle l'alla chercher, l'étala à mes regards avec satisfaction, et me dit en souriant triomphalement,
« Quel ouvrage, hein ? Oui, c'est ainsi que ce malheureux travaille, lorsqu'il le veut bien. Mais quand le veut-il, bon Dieu ? Il s'adonne à la peinture, à la poésie, à la musique. Autant d'art que nous ne rapporte pas une croûte de pain. Nous pourrions rouler carrosse, s'il le voulait seulement. « L'homme a-t-il besoin de chevaux et d'équipage ?» dit Abrahamec. « Si Dieu avait jugé bon qu'il se fasse voiturier, il aurait créé 100 jambes, pour sûr. »« Ah, mais vous l'entendez ?» cria Vergil exaspéré, en campant ses poings sur les hanches rondes sous sa jaquette fourrée. « Il est ainsi fait. Tout le jour, il erre comme en rêve et médite des folies plus grandes les unes que les autres. C'est moi-même qui devrais tenir son magasin, écoute pour lui. Mais Dieu m'en garde. J'ai assez de bon ménage à conduire. Vous aurez votre costume, jeune seigneur, je vous le promets, même s'il faut que je rosse Abrahamec comme un âne pour qu'il reste à son ouvrage. »
Elle lui envoya de son petit poing un coup solide dans les reins et sortit avec une envolée de jupe.
« Oh, jolie femme, remarquai-je. « Oui, elle est jolie, c'est vrai, » murmura Abrahamec tout absorbé.
« Et elle a l'air bien intelligente. »«
Elle est très intelligente. »«
Mais méchante, hein ?»«
Cela dépend du point de vue, » dit Abrahamec. « Les femmes ne méritent pas en général qu'on leur accorde grande importance, ni qu'on leur garde rancune. Mais celle-là, c'est différent. » Elle ne peut passer inaperçue. Et savez-vous, quand on veut bien se laisser maltraiter par une femme, il faut qu'elle en vaille la peine. Eh bien, il en vaut la peine.
Ainsi, tu es très satisfait de ta femme.
Pourquoi n'en serais-je pas satisfait? Qui est heureux en ce monde? Celui qui est content de son sort. Et c'est une brave femme. Le comte Scarbeck qui baisse toujours les mains. Pourquoi ne lui baiserait-il pas? Elle a une paire de petites mains molles comme du velours et aussi blanches que des peaux d'hermine.
Comment cet homme en est venu à épouser cet amour de petite femme, je n'en sais rien. Mais en quittant Abrahamec, je songeais que cet artiste orné de tant de dons différents était encore philosophe. Il représente absolument le type du Socrate juif de la Klaus. Au reste, avec une Xantippe pareille, je serais heureux de mon sort, moi aussi. J'ignore à quelle destinée brillante mon Abrahamec fut appelé plus tard, et je me demande quel était son talent dominant. À coup sûr, cela n'était pas la couture. Le jour suivant, il me livra mes habits, grâce sans doute aux soins de la jolie Vergile. Mais ce qu'elle ne put empêcher, hélas, c'est que son mari, tout en les taillant et cousant, n'était occupé de 1000 rêves dorés et roses, absorbé par la composition de poésies ingénieuses ou bercé par une foule de mélodies troublantes et harmonieuses. Le frac était étoilé des plis les plus épouvantables, et en outre beaucoup trop long. Par contre, le pantalon n'atteignait pas mes chevilles. Il m'était impossible de parvenir à fermer le gilet. Toutefois, je ne veux pas te chercher noise, mon bon Abrahamec, ne fût-ce que pour l'amour de ton adorable petite femme, au sourire si gracieux, aux yeux si beaux et aux mains molles, douces comme le velours le plus doux et le plus soyeux.